Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver comme chaque semaine ou presque pour le commentaire de la paracha de la semaine avec Abraham Harold Veil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Juste avant, on va faire une parenthèse pour signaler que c'est une info que j'ai reçue hier, que le CER s'est félicité de la décision de la juridiction belge qui a interdit la loi interdisant la shrita en Belgique. C'est une information qui a été donnée hier par le comité européen des rabbins.
Oui, alors ça remonte maintenant à quelques jours, deux semaines exactement. Et donc je précise bien qu'il ne s'agit pas, malheureusement, d'une autorisation à pratiquer la shrita, l'abattage rituel, dans toute la Belgique, puisque malheureusement la shrita a déjà été interdite dans les deux plus grandes régions belges les plus significatives que sont la Wallonie et la Flandre, et qu'il s'agissait ici de statuer sur l'interdiction de la shrita dans l'État de Bruxelles, qui est en réalité une troisième région toute petite, hein, qui représente Bruxelles et les alentours de Bruxelles. Mais cette victoire, pour autant, est une victoire symbolique, puisque le Parlement à Bruxelles a pris un petit peu le contre-pied des décisions qui avaient été prises auparavant concernant la Wallonie et la Flandre. Donc même si cela n'a pas beaucoup d'implications pratiques, puisqu'il y a très peu de shrita dans l'État de Bruxelles, dans la région, la province de Bruxelles. Pour autant, c'est une victoire, en tout cas, très très symbolique, et on espère qu'elle fera des émules et qu'elle stoppera, sans mauvais jeu de mots, cette hémorragie qui tend à interdire la shrita un petit peu partout en Europe.
Alors cette semaine, on revient à la paracha de la semaine, Korach, paracha que je connais bien, puisque c'est la paracha de ma bar mitzvah.
Mazal tov, Jean. On dira pas il y a combien de temps.
Ah non, on dira pas. Pour l'allumage des bougies, ce sera ce soir avant 21h16 et demain, la fin du Shabbat à 22h42, horaire uniquement valable pour Strasbourg et sa région. Comme chaque semaine, monsieur le grand rabbin, nous souhaitons un refouach shelema pour tous nos malades et un Shabbat shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Et on a aussi une bar mitzvah, monsieur le grand rabbin, celle de Zachary Baer.
Oui, on souhaite un grand Mazal Tov à Zachary qui nous fera l'honneur de célébrer sa bar mitzvah à la grande synagogue de Strasbourg. Zachary, qui est le fils de nos grands amis Donovan et Esther Baer, on leur souhaite un grand Mazal Tov, ainsi qu'à ses grands-parents Colette et Claude Baer, et à l'arrière-grand-mère de Zachary, du côté de sa maman, Madame Messaouda Selam, à qui on souhaite une bonne santé jusqu'à 120 ans, Amen. Avec une pensée très très émue pour les parents d'Esther, Zichronam Livracha, qui ne seront pas là physiquement pour assister à cette bar mitzvah, mais qui, depuis le Gan Eden, seront très très fiers de leur petit-fils ce Shabbat.
C'est évident. Alors, on va passer donc, si vous le dites, monsieur grand rabbin, par le résumé de la paracha de la semaine, donc Korach. Un résumé assez long parce que la paracha est assez longue.
Alors la paracha n'est pas spécialement longue, mais elle est très dense, elle est très intense, et elle vient nous parler d'une histoire non seulement que l'on connaît bien, mais surtout une histoire, je pense, qui est peut-être pour les lecteurs que nous sommes, lorsque nous la relisons chaque année, une histoire qui nous parle. Une histoire qui nous parle parce qu'elle nous parle malheureusement d'un thème qui agite un petit peu les communautés, qui agite régulièrement même les communautés, ces petites disputes, ces guerres intestines qui peuvent exister parfois à l'intérieur du clan, des communautés quelles qu'elles soient. Et il est donc ici question d'un épisode de dispute entre Korach d'un côté et 250 personnes qu'il va réunir autour de lui, et Moshe et Aaron, une dispute ici qui tourne autour de la lutte de pouvoir. Et c'est cet épisode-là, c'est ce thème-là qui va occuper une grande partie de la paracha. cet épisode, les conséquences, bien sûr. La Torah va nous exposer de manière claire quels sont les arguments de chacun, la manière dont on va intervenir, la manière dont Akadosh Baruch Hu, Dieu en personne, va intervenir pour mettre un terme à cette dispute et rétablir une certaine forme d'ordre. Et dans la deuxième partie de la paracha, qui est un peu la suite logique finalement, puisqu'il est question de revendiquer le pouvoir, ici, et de remettre en question le pouvoir exercé par Moshe et par Aaron, hein, les fonctions tout à fait particulières qui ont été attribuées à Aaron, en sa qualité de membre de la tribu de Lévi et en sa qualité de Kohen Gadol. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième partie de la paracha, eh bien, on va réinstaller Aaron dans ses fonctions, mais également nous parler des dons, hein, qui revenait aux Kohanim. On sait que les Kohanim bénéficiaient, au travers des sacrifices qui étaient apportés, d'un certain nombre de cadeaux qui leur étaient faits, la dîme également qui reviennent aux Lévi'im. Donc, non seulement on conforte Aaron dans son poste, ainsi que ses enfants, mais on rappelle également les privilèges qui ne sont pas des, encore une fois, hein, des privilèges qui sont là pour souligner une supériorité, mais tout simplement une rétribution, hein, par rapport à une fonction extrêmement noble qu'ils exerçaient et qui demandait un grand sens des responsabilités. Mmh. On parlera à la fin de la paracha aussi d'une mitzvah que l'on connaît bien, que l'on ne pratique pas très souvent, parce qu'il faut que beaucoup de conditions soient réunies, mais qui est la mitzvah de Pidyon HaBen, du rachat des premiers-nés aussi, et qui est une très très belle mitzvah qui figure à la fin de notre paracha.
Alors, avant de parler proprement de la Torah, on va essayer de revenir sur la chronologie. On pose beaucoup de questions pour savoir quand s'est déroulé cet événement, la première année avant l'installation ou après l'installation du Mishkan. Et d'ailleurs, certains commentateurs ne sont pas totalement d'accord sur la chronologie. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, parmi les grands, effectivement, parmi les grands commentateurs, on a deux écoles, on va dire, d'opposition, celle du Ibn Ezra, celle du Ramban. En réalité, donc, ils vont chacun être suivis par un certain nombre de Mefarshim, deux commentateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir la place que l'on a octroyé à cette paracha de Korach dans la Torah, juste après la paracha de Shlach Lecha, qui nous a parlé d'un épisode non moins célèbre, qui est celui des explorateurs. Mm-hmm. Donc logiquement, on pourrait penser que puisque cette paracha de Korach figure après celle des explorateurs, que cet épisode a eu lieu après l'épisode des explorateurs, ce n'est pas anodin, c'est un élément très important lorsque l'on sait que c'est suite à l'épisode des explorateurs que le retard de l'entrée en Eretz Israël a été annoncé par Akadosh Baruch Hu, donc une punition, 40 ans d'errance dans le désert. Et on le sait, ça a été un drame sans nom, peut-être l'épisode le plus tragique de l'histoire du Klal Israël, puisque contrairement à celui du veau d'or, hein, qui est déjà un drame très important dans l'histoire du peuple d'Israël, pour autant, le veau d'or n'a pas les mêmes conséquences en matière, on va dire, de retard de projet, qui était donc cette mise en route vers la terre promise. Là, l'épisode des explorateurs, le fiasco créé par l'épisode des explorateurs a eu des conséquences beaucoup plus graves. Et donc, on peut imaginer, et c'est un petit peu sur ce terrain que va s'aventurer le Ramban, que si cette paracha de Korach a été exposée après l'épisode des explorateurs, c'est justement pour nous dire que Korach, lui, a profité un petit peu de cette situation de fragilité après l'épisode des explorateurs. Mmh. Une situation dans laquelle aussi Moshe avait fragilisé son leadership. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de s'attaquer à ce pouvoir fragilisé incarné par Moshe et Aaron. Donc, d'après le Ramban, épisode qui aurait lieu très logiquement après, en suivant la place que l'on a donnée à cette paracha dans la Torah, après l'épisode des explorateurs. Le Ibn Ezra prend un petit peu le contre-pied en se basant sur un grand principe qui est que « En mukdam ou meuchar batorah », qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah, mais auquel le Ramban va rétorquer que certes, il n'y a pas de chronologie, mais qu'il n'y a aucune raison de déplacer finalement un épisode de la frise chronologique finalement sans raison particulière, sans qu'il y ait un motif qui puisse justifier un petit peu le fait qu'on ait changé de place, qu'on se soit un petit peu arrangé avec la chronologie.
Donc a priori, c'est la suite.
Pour le Ibn Ezra, il pense que cet épisode intervient plus tôt, qu'il intervient immédiatement, et il a donc des arguments, bien sûr, pour étayer, pour étayer sa position, que cet épisode de rébellion interviendrait immédiatement après l'inauguration du Mishkan, sachant que c'est après l'inauguration du Mishkan que les fonctions ont été attribuées. Donc on comprend la position du Ibn Ezra de dire, là où la colère colère et la jalousie étaient la plus forte chez Korar, c'était immédiatement après des nominations qu'il considérait comme injustes. Et donc, tout de suite après l'inauguration du Mishkan, je vous rappelle qu'on est un an après la sortie d'Égypte.
Voilà. Dans le deuxième verset de la Torah, enfin du chapitre, on dit en parlant de Korar, ils se dressèrent. C'est un terme qui est bizarre, on aurait pu dire il allait contre, ou un terme un peu plus guerrier. Et là, c'est un mot un peu plus, on va dire, un peu moins dur que le combat qui va avoir lieu.
Alors, pas nécessairement. D'ailleurs, le Baal HaTourim, qui aime bien jouer avec les valeurs numériques, nous rappelle que la gematria, la valeur numérique du mot vayakumu, est la même que le mot lachlok. Donc, lachlok, par définition, qui est entré dans la machloket, dans la dissidence. Donc, le mot vayakumu exprime lui-même déjà, de la part de Korar et des 250 hommes qu'il accompagnait, bien une volonté ici de prendre à partie Moshe et Aaron. Ou, en l'occurrence, Moshe, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais il y a une bizarrerie un petit peu dans la manière dont la Torah exprime les choses ici et expose les choses, c'est puisque dans ce deuxième verset, on nous dit « Vayakumu lifne Moshe », qu'ils se sont dressés contre Moshe, ouais. Tandis que dans le verset d'après, on nous dit « Vayikalu al Moshe va al Aaron ». Il y a Aaron qui rentre dans la danse, qui est absent du deuxième verset, comme si, dans une première intention, eh bien, ces hommes-là ne s'étaient dressés que contre Moshe Rabbeinu, et que, dans une seconde intention, eh bien, ils se sont également adressés à Aaron. Alors, bon, plusieurs réponses sont apportées. Effectivement, tout porte à croire que, dans le fond, finalement, eh bien, la personne qui pouvait poser problème, c'était Moshe, parce qu'au fond, c'est lui qui incarnait le pouvoir, même si ce pouvoir avait été partagé avec Aaron, à qui on avait confié la mission de Kohen Gadol. C'est malgré tout Moshe qui restait le chef, et c'est Moshe qui avait désigné, bien sûr, sur ordre d'Akadosh Baruch Hu, Aaron, pour exercer les fonctions de grand prêtre. Donc, on peut imaginer que, lorsque Korach choisit de s'adresser à l'un de ces deux personnages, il s'adresse en tout premier lieu à Moshe, car il représente pour lui le fond du problème. Pour répondre à votre question de Vayakumu, juste je me permets simplement d'apporter un deuxième élément. Donc, je vous ai dit Gematria, c'est une manière technique un petit peu de répondre à la question. Valeur numérique de Vayakumu, l'achlok, donc c'est une volonté aussi de la part de la Torah de faire allusion à ce concept de la machloket. Mais Vayakumu, nous dit, il me semble que c'est le Rachaim qui rapporte ça, Vayakumu, c'est se tenir debout, se tenir droit, c'est-à-dire à hauteur d'homme, finalement, avec Moshe Aaron. Et la Torah tient à exprimer par là le fait que dans la réclamation qui était celle de Korar, Korar voulait véritablement montrer qu'il faisait jeu égal avec Moshe et avec Aaron, et de par sa filiation, eh bien, il n'avait aucune raison à être considéré comme un personnage inférieur à Moshe Aaron. Donc Vayakumu, c'est une volonté de la part de la Torah de montrer que Korar, dans la position qui était la sienne, voulait absolument se tenir à hauteur d'homme avec Moshe et avec Aaron, montrer qu'il faisait en quelque sorte jeu égal avec ces deux grands personnages du clan Israël.
Justement, qui est Korar? On sait que c'est un descendant des Lévi. On cite un tout petit peu son pedigree au début de la Paracha, mais on n'en sait pas tellement plus.
Alors Korach est un cousin de Moshe et d'Aaron, on nous parle quand même très clairement de sa filiation, puisque dans le premier verset, on nous présente Korach comme étant Ben Yitzhar, Ben Kad, Ben Lévi. Donc on remonte quand même sur trois générations. Il est le fils de Yitzhar, il est le fils qui est lui-même le fils de Kehat. Kehat, nous le savons, c'est le fils, non pas le fils aîné, le deuxième fils de Lévi, mais celui qui a été doté des fonctions les plus importantes, puisque rappelez-vous, Jean, que lorsque la Parashat Bamidbar, à la fin de la paracha, nous parlait du conte tout à fait particulier qui a été réservé à la tribu des Lévim, ce conte se poursuivant au début de la paracha de Nassau, on avait recensé en premier la tribu et les enfants de Kehat, bien que Kehat ne soit pas l'aîné des enfants de Lévi, tout simplement parce que Kehat, de par les aspirations morales qui étaient les siennes, de par la hauteur d'esprit qui était la sienne, eh bien, s'est vu confier la mission la plus importante, qui était celle de porter le Aaron, notamment l'Arche Sainte. Et c'est en tant que descendant, justement, de cette noble tribu de Lévi, de par Kehat, c'est-à-dire vraiment sa branche la plus noble, la plus éminente, que Korar va ici revendiquer le pouvoir et, comme je le rappelais, donc vouloir faire jeu égal avec Moshe et Aaron.
Alors, j'ai résumé deux questions en une. D'abord, comment Korar a pu, on va dire, influencer 200 chefs de tribu? Ça, c'est la première partie de ma question. Comment il a fait? Quels ont été ses arguments? Qu'est-ce qu'il leur a dit pour les faire rejoindre le mouvement ?
ben, la Torah est, on va dire, assez à la fois énigmatique, et, parce que Vaïkar Korach, justement, lorsqu'on nous dit que Korach a pris, on ne sait pas ce qu'il a pris, et c'est ce que les Mefarshim vont tenter de déceler. Kechoui Machem Devarim, c'est une des propositions qui est rapportée par les Mefarshim. Ici, Vaïkar Korach a pris, ils n'ont pas pris physiquement ces personnes-là, mais Kechoui Machem Devarim, il les a un petit peu endormis par la parole. Korach était un beau parleur, et c'est d'ailleurs ce qui permet au Rav Sourotskine, dans son Osnaim la Torah, de nous dire que Korach était un homme intelligent, parce que il se dégage des Mefarshim le fait que Korach était un homme intelligent, comme si c'était quelque chose de parfaitement admis. Or, rien ne laisse transparaître, au travers des indications que nous avons sur Korach dans la Torah, qu'il était un chacham. Mais c'est en réalité sa force de persuasion, le fait que, à la fois de par son charisme, mais également de par sans doute la profondeur et la force de ses arguments, Korach ait réussi à rassembler autour de lui 250 personnes, et non des moindres, puisqu'il s'agissait de 250 notables, qui, d'après le Rav Sourotskine, nous fait dire que Korach était un homme intelligent. Pour persuader 250 personnes, encore une fois d'éminents notables, de se rebeller contre Moshe et Aaron, lorsque nous savons ce que représentait Moshe et Aaron, il faut forcément être capable d'étayer ses propos, d'argumenter correctement. Et c'est ce que Korach a été capable de faire. Il a su frapper juste, en quelque sorte. Il a su mettre le doigt là où ça faisait mal, là où éventuellement, eh bien, ces personnes qu'il a rassemblées autour de lui pouvaient également se sentir lésées. Et donc, c'est finalement par cette volonté qu'a eu Korach il s'est caché, bien sûr, derrière. Korach avait une approche extrêmement pernicieuse, finalement, du problème. Korach est un grand opportuniste, mais en voulant faire croire, finalement, à ces 250 personnes qu'il défendait avant tout leurs intérêts, que Korach n'était pas là lui-même pour se mettre en avant, mais au contraire pour défendre les intérêts du peuple, eh bien, qu'il a réussi donc à convaincre toutes ces personnes de se rassembler autour de lui. Toujours se cacher derrière la volonté de défendre les intérêts de la collectivité. C'est gagnant à tous les coups lorsque vous faites mine de vous mettre en retrait pour défendre avant tout les intérêts de la collectivité, et que vous dénoncez au contraire des intérêts personnels qui seraient défendus par le pouvoir en place. Eh bien, vous avez toutes les chances de convaincre les masses, et c'est exactement ce qu'a su faire Korach.
Alors, il y a une partie intéressante dans la paracha, c'est sur les encensoirs. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu, pas choqué, mais qui m'a interpellé. Au début de la paracha, quand on parle des encensoirs, on parle plutôt de morts, de Nadav et Avihu qui sont morts à cause de ça, des 250 qui vont mourir à cause de ça. Et d'un autre côté, à la fin de la paracha, l'encensoir sauve des vies. Il y a comme ça une sorte de mort et de vie dans le même pouvoir. Qu'est-ce que cet encensoir a comme particularité?
Alors Rashi rappelle lui-même l'épisode, volontairement l'épisode de Nadav et Avihu, puisque cet épisode qui a eu lieu avant l'épisode de Korach, et un épisode sans doute duquel Korach et tous ses acolytes auraient dû s'inspirer pour ne pas reproduire la même erreur, c'est-à-dire savoir que lorsque Nadav et Avihu ont eu des aspirations qui, certes, n'étaient pas les mêmes que Korach, mais étaient aussi une volonté, d'après les Mefarshim, d'après le Midrash, de vouloir prendre le pouvoir. Hein, on le sait, le Midrash nous rappelle que Nadav et Avihu ricanaient un petit peu dans le dos de Moshe et Aaron en se disant quand est-ce que ces Zekenim, quand est-ce que ces vieillards vont-ils quitter le monde, que nous puissions enfin prendre leur place. Et Nadav et Avihu avaient une très haute estime d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans le geste qui a été le leur de vouloir approcher, offrir ce sacrifice que Dieu, dans le sens que Dieu ne leur avait pas demandé d'approcher, il y avait une volonté de la part de Nadav et Avihu de se détacher du peuple, se considérant comme étant plus élevé que le peuple, et donc une volonté véritablement de se détacher. Or, ils n'avaient pas été choisis pour cela, et ils auraient dû l'intégrer. Et Korach aurait dû tirer les leçons de cela. Lorsque Moshe fait appel à ses encensoirs, en réalité, il invite Korach à revoir sa position. Et choisir l'encensoir n'a pas été laissé ici au hasard, dans le sens où l'encensoir, si jamais, enfin la kétorette, l'encens, s'il a été apporté par un zar, par une personne qui n'est pas qualifiée pour cela, eh bien le onesh, le châtiment qui est prévu pour cela, est mitab ide shamaim. C'est une mort, mais une mort divine, une mort qui est appliquée ici, et qui est sanctionnée par Akadosh Baruch Hu, par Dieu lui-même. Et donc, il y a ici une allusion claire qui est faite par Moshe Rabbeinu à Nadav, pas Korar, pardon, ouais. de tirer les leçons de ce qui s'est passé avec Nadav et Aviou et de revoir sa position. Lorsque Moshe choisit ce test de l'encensoir, il se dit à ce moment-là que fort finalement de cette réflexion, de cette allusion à Nadav et Aviou, fort également de ce petit clin d'œil que Moshe fait en disant attention, c'est Akadosh Baruch Hu qui va trancher, de la même manière que c'est lui qui m'a nommé, de la même manière que c'est lui qui a nommé Aaron, qui n'a à aucun moment cherché les honneurs, au contraire, Aaron a même fui les honneurs, eh bien c'est Dieu, là aussi, qui tranchera finalement de cette histoire des encensoirs. Donc faites marche arrière pendant qu'il est encore temps, et ne vous laissez pas déstabiliser finalement par votre soif ici de kavod, une soif de kavod que vous voulez masquer derrière une soi-disant défense de la collectivité.
Et dans un deuxième temps, l'encensoir sauve, puisque à la fin de la paracha, on le verra, l'encensoir sauvera des vies et stoppera une épidémie. Voilà. On va avancer parce que malheureusement, le temps court très très vite. Alors, il y a eu cet épisode-là. Et puis, on voit que Moshe va aller voir Datan et Aviram, qu'on connaît bien dans l'histoire du peuple juif, pour avoir été des espions, des collaborateurs. Et donc, il va les convaincre. Je ne comprends pas très bien ce que cherche Moshe chez Datan et Aviram. Il connaît qu'ils... les opinions de ces deux personnages qui sont contredits depuis le début, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Est-ce qu'il y a un message dans le geste de Moshe ?
Alors, Moshe, effectivement, n'ignore pas qui sont Datan et Aviram. Ce sont des personnages qui ont fait énormément de mal au clan Israël, hein, depuis déjà l'Égypte. Et nous nous rappelons exactement de ce que nous dit la Torah à propos de Datan et Aviram, les différents épisodes égyptiens. Mais voilà, Moshe est un homme de paix. Moshe est un homme qui cherche maintenant à mettre un terme à la marloquette. Or, il s'est adressé jusqu'à présent à Korar. Certes, Datan Aviram avait rejoint Korar, mais il représente une autre catégorie de personnes. Il représente une autre forme de revendication qui rejoint, certes, celle de Korar, mais qui incarne une autre dimension, une autre facette du peuple. Et donc, Moshe a compris qu'après s'être adressé à Korar, il doit également, s'il veut calmer le jeu, s'il veut réussir à mettre un terme à cette marloquette, également s'adresser à Datan Aviram. Certes, cette discussion, finalement, ne mènera pas Moshe là où il l'espérait, mais Moshe, en tout cas, tente le tout pour le tout. Sa discussion, pour l'instant, avec Korar, malheureusement, n'a pas porté ses fruits. Moshe doit s'adresser maintenant à Datan Aviram, qui sont, on va dire, de sacrés agitateurs dans le peuple, mais également, peut-être, ceux qui seront capables, si jamais Moshe arrive à les convaincre à ce moment-là, eh bien, de mettre un terme à cette marloquette et peut-être de faire baisser un petit peu la tension c'est qui existe à ce moment-là entre donc d'un côté ces 250 hommes et de l'autre côté Moshe et Aaron.
Hachem demande à Moshe et Aaron de s'écarter de cette assemblée. Je suis un peu interloqué par cette réponse. On dit toujours qu'il faut éventuellement combattre au lieu de s'écarter. Est-ce que c'est en fait comme ça qu'on doit faire quand il y a des agitateurs dans le monde, c'est s'écarter d'eux ?
Bon, là, rappelons qu'il y a une volonté de protection de la part d'Akadosh Baruch Hu, puisque Dieu s'apprête à ce moment-là à châtier,
oui,
on va dire, la non-réaction de Korach et de toute son assemblée qui, malgré les avertissements répétés de la part de Moshe,
il dit plusieurs fois.
Voilà, il bat des loups, mitor haeda, et donc, à un moment donné, lorsque on ne veut pas comprendre, Akadosh Baruch Hu, on va le voir tout de suite, donc va être obligé d'intervenir. Il intervient, on le sait, d'une manière particulièrement ici violente et sévère, mais il faut le comprendre, hein, ici, cet épisode de Korach, et s'il a été rapporté par la Torah de cette manière, s'il a été autant étayé que la Torah a choisi vraiment de nous en parler en détail, c'est parce que nous sommes, encore une fois, il y a plusieurs tournants dans l'histoire du clan Israël durant ce long périple dans le désert, mais celui-là est l'un des plus marquants parce que cette tentative de putsch, elle est vraiment significative de la fragilité qui peut exister au sein du clan Israël et de la manière dont finalement, avec peu de choses, eh bien, on peut déstabiliser tout un peuple. Et donc, cela doit nous servir de leçon. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va vraiment exposer en détail cette histoire de la marloquette entre Korach et Moshe et Aaron. Lorsque Hachem demande à Moshe et à Aaron de s'écarter, il y a bien sûr une volonté de s'écarter physiquement pour qu'ils puissent tuer, mais une volonté aussi de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire un clin d'œil et de leur dire Voilà. À un moment donné, finalement, il ne sert plus à rien de parler. Rappelez-vous d'ailleurs ce que nous disent les Pirkei Avot, hein, lorsqu'ils nous parlent d'une machloket, d'une dispute qui n'est pas les Shem Shamaim, qui est intéressée, contrairement à celle de Shammai et Hillel, hein, ces deux grandes écoles talmudiques qui s'affrontaient, qui très souvent n'étaient pas d'accord, mais toujours dans le but de faire ressortir toute l'authenticité de la parole de Dieu. Eh bien, ici, on ne nous parle pas de la machloket de Korach et de Moshe, mais de Korach v'chol adato. Moshe est absent du débat. C'est la machloket de Korach et de son assemblée. Sous-entendu, c'est eux et eux seuls qui ont cherché à semer ici la zizanie. Et Moshe est absent. Il n'y a aucune raison de mêler Moshe à cette machloket, puisque Moshe, lui, à aucun moment n'a souhaité s'immiscer dans cette dispute. Il a cherché toute sa vie, tout comme Aaron a été un homme de paix. Moshe aussi a cherché à être un homme de paix. Eh bien, les hommes qui sont dangereux, les hommes qui sont pervers, les hommes qui sont des agitateurs, les hommes qui ne cherchent finalement qu'à semer le trouble, il faut non seulement s'en méfier, mais il faut s'en écarter. Achek mishachenra, nous disent nos maîtres, écartons-nous des réchaïm.
C'est ce qu'on doit faire.
Voilà. Et lorsque l'on a tout tenté et que, on voit qu'en face, non seulement nous n'avons pas de répondant, mais au contraire, une arrogance qui ne fait que s'amplifier, eh bien, la solution, finalement, est à terme de s'en écarter, de ne surtout pas se laisser non seulement impressionner, mais peut-être même un petit peu déstabiliser, voilà, et perturber, et peut-être même, pire que ça, peut-être convaincre même si ça serait de manière partielle, mais convaincre par les arguments. Vous savez, lorsque vous ne savez pas mettre un terme à une marloquette ou à une discussion qui est une discussion qui est toxique, eh bien, vous finissez nécessairement, à un moment donné ou à un autre, par vous laisser convaincre, peut-être ou déstabiliser par une partie de ses arguments, et cela peut avoir des conséquences tout à fait désastreuses. Je me permets de rappeler notamment un épisode assez intéressant lors de la mort de Yaakov, lorsque ses enfants ont voulu aller l'enterrer en Eretz comme promis, et que Esav barrait l'accès à la Maharat Amarpella, hein, en revendiquant le fait que c'était sa place et que Yaakov n'avait rien à y faire. Rappelez-vous ce qui se passe à ce moment-là, on va envoyer Naftali, qui est Ayala Shelucha, qui est une gazelle élancée, qui court vite aller chercher la preuve de l'achat de cette concession qui était resté en Égypte, et on a à ce moment-là une intervention de Hushim qui, lui, étant malentendant, n'a pas entendu toute la discussion et qui, lui, décide d'agir immédiatement. Mais comment est-ce qu'on peut laisser mon grand-père dans ce bisaillon, vraiment posé devant cette grotte et retarder son enterrement? Et donc, parfois, vous savez, rentrer dans les discussions et dans des discussions qui sont toxiques, eh bien, ça a des conséquences désastreuses. On le voit notamment au travers de ce Midrash.
J'ai une question pour terminer un peu plus large. À chaque fois, Aaron est remis en cause. Pourquoi cette remise en cause, c'est un poste important que beaucoup de gens ambitionnent, et à ce moment-là, on essaie à chaque fois de déloger.
Vous savez, Aaron, on le voit tout au long de la Torah, tout au long du texte que nous expose la Torah, Aaron est un personnage qui a toujours fui les honneurs. Aaron a même du mal, on le voit à plusieurs reprises, et on le voit au moment de l'inauguration du Mishkan, Aaron a presque du mal parfois à assumer sa fonction, car il ne s'en sent pas à la hauteur. Et d'ailleurs, rappelez-vous que c'est Moshe qui va devoir lui demander, au moment de l'inauguration du Mishkan, de s'approcher. Kerav el Hamizbeach va'aseh, et Rashi nous dit, parce qu'Aaron tout simplement avait honte de s'approcher. Aaron avait encore en tête l'épisode du veau d'or auquel il avait activement participé, pour la bonne cause. Hein, rappelons-nous qu'à aucun moment Aaron n'a eu à l'esprit de suivre le peuple dans sa folie, mais de vouloir temporiser les choses, de vouloir faire en sorte que les choses restent sous contrôle. Malgré tout, Aaron sent le poids de la culpabilité. Et c'est Moshe qui sera obligé de lui rappeler que c'est pour cela qu'il a été choisi. C'est justement pour son sens des responsabilités, pour son sens du sacrifice. On n'aurait pas pu imaginer meilleure personne que ce sens du sacrifice qu'Aaron a pour la collectivité. Mais donc Aaron a toujours fui les honneurs. Il ne s'est jamais senti à sa place, même s'il a toujours fait un excellent travail. Et je crois que le fait volontairement finalement de le réinvestir dans la mission qui est la sienne nous rappelle à quel point Aaron était la bonne personne et que le mérite personnel est très très important. Certes, il y a le mérite collectif, c'est important d'être ensemble, c'est important que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, mais Akadosh Baruch Hu ne choisit pas les gens par hasard. Les grands personnages de la Torah l'ont tous été par leur mérite, par leur capacité à travailler personnellement sur les qualités humaines, sur leurs défauts, à modifier, à transformer les fragilités qui pouvaient être les leurs. Et c'est ce qui a valu à Aaron la position qui était la sienne. Jamais une volonté d'écraser les autres, sûrement pas une position qui lui a été accordée par des privilèges quelconques, mais uniquement par son travail personnel et par les qualités qui étaient les siennes.
Pour cette dernière, je vous remercie d'abord la radio et en son nom le président Patrick Cohen pour tout ce qui nous met à disposition. Les gens des clubs de la radio civile qu'on remercie. On remercie aussi Valérie Vial, Lucas et Robin qui ont été là avec nous. Merci monsieur Laurent Rabin tout au long de cette année d'avoir été patient et d'être venu régulièrement à la radio pour nous donner vos enseignements. On se retrouve la saison prochaine en septembre.
Avec grand plaisir, Jean.
Voilà, merci beaucoup à vous. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Et on se retrouve à la rentrée.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless